de la parole, c'est-à-dire au sens du parler, mais aussi un galout de l'écouter. Donc une incapacité de parler et aussi une incapacité d'écouter. Pour que la libération des Bnei Israël puisse se faire, il faut les deux. Il va falloir de l'écoute, il va falloir de la parole. Akadosh Baruch Hu sait très bien que le peuple n'est pas préparé. Ils ne sont pas au niveau où normalement ils doivent sortir. Ça va être un recette de sortir. Ils ne sont pas vraiment préparés. Néanmoins, bon, c'est problématique à cause de ça, mais c'est marqué dans Shir HaShirim, Kadosh Baruch Hu, il passe par-dessus les montagnes, ça les harim. Donc il y a des montagnes qui empêchent. Qui empêche les Bnei Israël d'être libérés. Mais Hachem va passer par-dessus et il va quand même libérer les Bnei Israël. Lorsque, pour la première fois, Moshe est allé parler à Paro. Alors, vous vous souvenez, on a vu ça dans le Shiurim de Chumash. Ça s'est mal passé. Puisque la conséquence de l'intervention de Moshe Rabbeinu, c'était un tour de vis supplémentaire. Quand l'histoire de la paille, fabriquer les briques, ils ont besoin de paille. Et jusque-là, la paille leur était fournie. Et quand Moshe est arrivé et qu'il a dit que les peuples d'Israël voulaient aller servir leur Dieu, ah. Aller servir Dieu. Paro a dit, qu'est-ce que cette histoire de liberté, d'aller servir un Dieu? Bon, on va voir, il va s'y opposer. Et d'une certaine manière, si je vais refermer cette porte-là aussi, on a la chance d'ouvrir. Pardon, Paro avait dit donc, je vais donner un tour de supplémentaire, comme ça vous n'aurez plus le temps de penser. C'est ça l'idée. Effectivement, ils vont plus avoir le temps de penser, parce qu'ils vont être complètement débordés. Ils étaient déjà à la limite de leurs possibilités. Et là, maintenant, ils vont dépasser les limites. Donc, cette expérience que les Bnei Israël ont faite, que quand Moshe intervient, ça aggrave la situation. C'est une des raisons pour lesquelles les Bnei Israël n'écoutent plus Moshe. On ne va pas l'écouter. Ce type-là, quand il intervient, hein, si on l'écoute, ça arrange pas les choses. Donc, le Sfat Emet dit, les Bnei Israël, pour pouvoir entendre, pour entendre Moshe, il faut qu'ils aient, il y a plein d'éléments à éliminer, en quelque sorte. Il y a des obstructions qu'il faut arriver à surmonter. Alors, si on veut, c'est le récit de ce qui s'est passé dans le passé, du passé, de l'intervention de Moshe Rabbeinu, suivi donc de cette aggravation de la situation, c'est une obstruction pour continuer d'écouter, pour. Il veut pas, c'est. En fait, dans le texte, Paro utilise une formulation. Il dit, il accuse les Bnei Israël d'être nirpim. Vous êtes des paresseux. C'est pour ça que vous voulez aller. En fait, c'est un prétexte d'aller servir votre Dieu. En réalité, vous êtes simplement des paresseux, vous voulez pas travailler. C'est tout. Ça, le problème. C'est le mot, nirpim, c'est le même mot que rafouille. C'est tenir de façon lâche. Vous n'êtes pas vraiment à travailler, donc vous cherchez n'importe quel prétexte pour ne pas travailler. Et donc, il augmente la charge de travail. Et il dit, au Bnei Israël, enfin il dit à Moshe, à Aaron, vous empêchez les gens de travailler. Et puis ensuite il dit, Al Ishou, qu'ils arrêtent. Alors, ça dépend comment on va le lire. Si on le traduit, que les Bnei Israël. Que les Bnei Israël arrêtent de s'occuper de vide, de parloter sans arrêt, parler, c'est-à-dire on va aller sacrifier, etc. C'est du vent. Rachid dit c'est du roi, c'est du vent, dit Paro. C'est-à-dire vous êtes sans arrêt en train de discourir, en fait. À la place de travailler, vous parlez. Le mot pour le vent, c'est ruach. Et le mot ruach, il a deux sens. Ruach, c'est vraiment le vent, mais c'est aussi l'esprit. C'est les deux choses. Donc il y a une ambiguïté, en quelque sorte, y compris dans ce que dit Rashi, dans la traduction de Rashi. En fait, cette idée de nirpim et des mots, etc. Il y a un Midrash Tanhuma, qui dit la chose suivante. Paro, il parle à Moshe et à Aaron, qui sont. Il leur dit, je vous ai dit, pourquoi vous distrayez le peuple, vous les empêchez de travailler? Il demande, Lama. Lama, ça veut dire pourquoi? Alors, le Midrash dit, vous êtes des lamas, et vos mots, c'est tout en lama. Pourquoi? 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 C'est-à-dire, c'est un espèce de discours qui n'arrêtait pas de parler. Pourquoi pas? Pourquoi si? Pourquoi ça? Etc. Le mot Yishu, c'est-à-dire qu'il ne prête pas attention justement à tout ce discours. Alors le Midrash dit, que les nés d'Israël, ils avaient des rouleaux dans lesquels, enfin, avec lesquels ils pouvaient jouer. Alors, c'est construit cette histoire de jouer avec les. C'est le mot Yishu dans la racine de Yishu. C'est Sha'a. Et si on dit Sha'a, Sha'a, c'est Sha'a, ça veut dire jouer, justement. Yishu, c'est un verbe qui, dont la racine, si vous voulez, indique cette histoire d'un jeu. Vous jouez. Il jouait, et en fait, il jouait avec ses rouleaux le Shabbat. Et donc, Paro envisageait donc de les empêcher de. Alors, il faut peut-être qu'ils travaillent le Shabbat parce que sinon ils vont jouer. Alors, c'est quoi ce jeu, effectivement, auquel joue ce peuple d'esclaves? C'est un texte, donc ils sont un rouleau. Il leur fait plaisir. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est quoi cette histoire des rouleaux? Ces rouleaux, en fait, c'était des textes qui parlaient de la libération. Il n'y a pas de Torah encore, bien sûr. Donc, ils n'ont pas des textes de Torah. Mais ils ont des textes qui parlent de libération. Et quelque part, si vous voulez, ça leur permettait de rêver à la libération. C'est-à-dire que, en réalité, l'esclavage, c'est un état de. On est en quelque sorte à un niveau très bas. À la limite, l'esclave, ce qu'il veut, c'est sa bouteille de bière ou. Pour pouvoir sortir de l'esclavage, il faut quelque chose d'extérieur. Il faut que quelqu'un vienne leur parler, que ça soit venir parler un langage, que ce soit marxiste ou que ce soit autre chose, ou un langage. Il faut que il faut les familiariser avec la notion de liberté. Le mot liberté, ça veut rien dire pour eux. On a déjà dit souvent dans les théories que Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, ça ne voulait strictement rien dire. Personne n'était jamais sorti d'Égypte. C'est des mots qui ne veulent rien dire. Nous, ça, voilà, on fait référence à un récit qui nous parle, qui nous raconte qu'un jour on est sorti d'Égypte. Et l'Égypte, comme son nom l'indique, Mitzrayim, Metsar, ça veut dire l'étroitesse. Parce qu'en fait, l'Égypte, c'est la vallée du Nil. Donc c'est très étroit. Et donc, du coup, les gens étaient à l'étroit. Et dans la tête aussi, ils sont complètement à l'étroit. On ne peut pas sortir. Ils vont aller où pour sortir? Autour, à gauche, à droite, il n'y a rien, c'est le désert. Et donc, l'idée de liberté, par exemple, c'est une idée à laquelle il faut se familiariser. Et bien justement, ces rouleaux-là, ils étaient là pour les favoriser, pour qu'il faut ce que j'ai dit, il faut s'habituer à ces rouleaux-là. Il faut favoriser cette idée, il faut la faire entrer dans la tête. Et bien, en jouant avec ces rouleaux, on veut dire par là, c'est qu'ils jouaient avec ces rouleaux et donc ils s'habituaient en quelque sorte à l'idée en question. Mais pas seulement. Désolé, hein, c'est une fonction de concierge. La Torah elle-même, dans les Tehillim, David HaMelech parle de la Torah comme un objet avec lequel on joue. Hachem dit, Loulé Toratra Shashu. Si ta Torah n'était pas pour moi un jouet, enfin, en fait, je serais mort. C'était de vie ou de mort. Et en fait, on dit aussi que Hachem joue avec la Torah. Alors ici, on voit que cette histoire de jouer avec, c'est pas une question, c'est pas une occupation très légère. C'est un truc de vie ou de mort. Or, si je n'avais pas eu cette possibilité de jouer avec cette Torah, je serais mort. C'est un secret de une survie avec ça, de façon assez énigmatique. Pourquoi jouer avec cette Torah? Pourquoi c'est quelque chose de vie ou de mort, en fait? Dans notre Midrash, probablement, il faut entendre que ces rouleaux-là, c'est un texte de pré-Torah, un texte d'avant la Torah. Au sens où c'est un texte dans lequel on va interpréter, à partir duquel on va spéculer, ce qui parle de, il parle d'une libération. Mais c'est, encore une fois, libération pour ces gens-là, les esclaves, c'est presque un mot qui veut, c'est un mot qui veut pas dire grand-chose, donc on, comme si on pouvait jouer avec ce mot-là, jusqu'à ce que, c'est quoi, jouer avec un mot, c'est des jeux de mots avec. Ça, Paro, il dit, c'est du vent. Mais en fait, ça, c'est l'esprit déjà de, c'est un travail qui va être utile pour la Torah Shebaalpé après. C'est une préparation. Alors, Paro, il a reconnu que ça donne une certaine légèreté. Et lui, il ne voulait pas de ça. Il faut leur mettre un travail lourd. Il va les épuiser, en fait. Ça, cette idée. Vous êtes des lamas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi sans travail? Certaines manières. Ces rouleaux, ça leur permet de respirer, trouver du souffle, parce que ça permet d'avoir de l'espoir, ça permet de penser au futur, penser à un futur, je veux dire, qui a priori n'existe pas dans la tête d'un esclave, il n'y a pas de futur. Le futur, ce sera la même chose que demain, la même chose qu'aujourd'hui. Ce souffle, cette respiration, c'est ce qui va donner le rêve, c'est ce qui va donner l'art, la philosophie, la pensée. Ce temps-là, le temps où il s'occupait de ça, c'était le Shabbat. Le jour où il ne travaillait pas, il s'occupait de ça. Quelque part, c'est aussi une idée de ce que doit être le Shabbat. Il doit apporter. Le Shabbat, c'est quand même énorme là-bas. C'est, ça va devenir. Pour eux, c'est encore rien du tout, mais pour eux, c'est un jour de congé, c'est tout. Bon, on est avant Matan Torah. Bon, c'est un jour où on fait des expériences de pensée, où on pense, où on souffle, on pense au futur. comprendre que les bénis Israël, ils avaient des ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Et ces gens-là, ils sont présentés comme des gens qui étaient branchés en permanence sur Hachem. Ils étaient toujours avec Hachem. Et les avot, c'est ça leur caractéristique. Ils avaient une confiance totale en Hachem. Ils avaient cette fameuse confiance dans les promesses d'Hachem dont ils n'ont jamais vu le début du commencement de la réalisation. Mais ils avaient confiance dans ces promesses. Et maintenant, tout à coup, les bénis Israël sont là. Et donc, il n'y a plus de... Comme vous savez, ils ont arrêté de penser, de pratiquer, de réfléchir dans les lignes de pensée et d'action d'Abraham. Le Rambam dit qu'on a pratiquement tout oublié en Égypte. On a tout oublié. Ça a duré 210 ans quand même. Oh, il y a trois dates dans... Pour la durée de galoute de Mitzrayim. Ce galoute il a donc été annoncé à Abraham dans Brit Ben Abtarim. Enfin, Abraham a fait cette fameuse alliance entre les morceaux, durant lequel il a eu la vision et où il a choisi le galoute pour ses enfants, etc. Alors il y a un chiffre de 430. Si on commence à compter depuis ce moment-là, jusqu'à la sortie d'Égypte, ça fait 430 ans. Si on compte depuis la naissance de Yitzhak, ça fait 400 ans. Et concrètement, on était 210 ans. Bon, c'est... Donc, leurs ancêtres, voilà, ils étaient branchés sur Hachem, si on peut parler comme ça. Et là, maintenant, c'est un traumatisme qui leur arrive. Ils sont complètement coupés du passé. Ils n'ont plus rien à voir. Pratiquement plus rien à voir. Les seuls, c'est la tribu de Lévi, mais autrement, ils n'ont plus rien à voir avec ça. En mots, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est seulement en mots. Il va se créer éventuellement un lien, un peu un lien avec Hachem, puisqu'il y a une promesse de libération avec celui qui va les libérer, quoi. Se créer d'abord un peu symboliquement, quoi, avec des mots. Ces rouleaux-là sont très très importants. Donc, ce que nous apprend le Midrash, il parle de ces rouleaux. Parce que, d'une certaine manière, cette histoire de interpréter ce qu'il y a dans les rouleaux, ça a donc été donné avant la Torah, avant la Torah écrite. Avant la Torah écrite, les Bnei Israël ont expérimenté quelque chose qui va être fondamental pour la Torah orale. Bon. Avant qu'on ait Bichla la Torah écrite. Ils ont appris à penser la liberté, la libération. Ils ont appris à penser l'interprétation, à penser qu'il fallait interpréter du texte. Tout ça avant même la Torah écrite leur ait été donnée. Et donc ça a développé une capacité de rêverie, d'imagination, en fait, qui va être fondamentale dans Torah Shebaal Peh. L'imagination va être absolument fondamentale, mais pas des choses vaines, mais être capable de penser des choses, c'est-à-dire penser des choses impensables, mais d'envisager des solutions auxquelles personne ne pense. Il y a des lectures de Rabbi Akiva. Voit très bien que jamais on pouvait penser une chose pareille. Mais lui, il l'a pensé. Donc ça veut dire que c'est pensable par les êtres humains, mais il faut toute une culture tout un bouillon de culture pour produire justement des gens qui puissent penser comme ça. Et donc, cette capacité-là, elle a été travaillée, elle a existé avant toute chose, avant la sortie d'Égypte, avant évidemment Matan Torah, etc. On va regarder maintenant dans cette histoire de l'exil de la parole. On va regarder un peu du côté de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu résiste, il refuse la proposition d'Hachem. Vous vous souvenez, Moshe, après son mariage avec Tzipora, il devient berger de Yitro. Donc, à un moment donné, il a fait paître les troupeaux et il est arrivé dans le désert du Sinaï. Il est arrivé quasiment au pied du mont Sinaï. Là-bas, Chazal disent qu'il a vu. Il y a un agneau qui s'est paumé, qui s'est perdu, il est allé le chercher, etc. Et il a vu ce fameux buisson ardent. Il a vu un buisson qui brûlait et qui ne se consume pas. Et donc il s'est approché, il va voir ce qui se passe. Certaines curiosités, mais bon, ça c'est logique de voir. Du coup, il y a une voix qui lui a parlé, on peut dire donc c'est Hachem qui lui parle, et qui lui dit, enlève tes chaussures, la terre sur laquelle tu te tiens, c'est Admat Kodesh, une terre sainte. Bon, c'est le seul moment où on parle de terre sainte. La terre sainte en question, je vous rappelle, c'est du Sinaï. Il est au Sinaï. Et la terre, elle est sainte. C'est-à-dire, on voit très bien, tu ne peux pas marcher avec des chaussures. La terre, elle va être sainte aussi quand Hachem va parler. Hachem va parler au Sinaï. Alors, les troupeaux n'auront pas le droit de paître à cet endroit-là, on ne pourra pas monter sur la montagne, etc. Mais immédiatement après qu'Hachem ait parlé, tout le monde, les troupeaux peuvent aller paître là-bas. Ce n'est pas du tout une terre qui resterait sainte parce qu'Hachem a parlé là-bas. Pendant qu'Hachem a parlé, c'était saint, là aussi. Pendant que Hachem lui parle, si on veut, buisson ardent, alors Hachem le dit, la terre, elle est sainte. Il n'y a pas de... La terre, elle n'est pas intrinsèquement sainte. Alors Hachem lui parle et il lui dit, alors c'est un peu assez étrange qu'on entend Moshé, le Moshé dont on parle ici, c'est quelqu'un qui, Hachem a priori, lui a jamais parlé. Du coup, il lui parle. Et il lui dit, tu vas aller libérer les Bnei Israël. Donc, il dit non. Il dit non, il dit qui suis-je pour aller parler, moi, que j'avais parlé à Paro, que j'avais parlé au Bnei Israël. Et à part ça, à part toute chose égale par ailleurs, j'ai les lèvres complètement bourrelées. Certains disent, je peux pas parler. Physiquement, je peux pas parler. Et il va résister pendant toute une semaine. Il résiste pendant toute une semaine et ça va lui coûter très cher. Ça lui coûte, premièrement, mon cher Abbéno, il va devenir Melech, il va être le roi. Ce n'est pas un roi avec une couronne et une cour, etc., mais il est roi. Vaïe Bishurun Melech. Il dit dans la Torah, ça parle de mon cher Abbéno. Moshe va être Meller, Yoshua sera Meller, Shmuel Anavi, le prophète Shmuel aussi sera, il est Meller. Mais ils sont Meller d'une façon complètement originale, au sens, pas du tout comme les rois des peuples. Et c'est justement le seul problème, c'est qu'à l'époque du roi, à l'époque du prophète Shmuel, les Bnei Israël sont allés chez lui, ils ont dit, on veut un roi. Il a dit, mais vous avez un roi. Moi, je suis roi. Et... Non, mais on veut un roi comme les Goïms. Il a commencé à expliquer que c'était un malheur pour eux. Ils disaient, rien, nous, on veut un roi comme les Goïms. Alors, ils l'ont eu. Ils en ont eu. Mais Moshe devait être aussi Kohen Gadol. Bon, alors, si vous voulez. On retombe toujours sur le même problème, c'est que en théorie, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, en théorie, mais concrètement, il y a séparation des pouvoirs, parce qu'Hachem va lui enlever la punition de Moshe, qu'Hachem lui enlève la Kehuna Gdola et il la donne à son frère Aaron. On n'est pas sûr que c'est marqué, ton frère Aaron le Lévi. C'est lui qui parlera. Il aurait dû être Lévi. Il est Lévi. Ils sont tous les deux d'Élevim, Moshe et Aaron. Mais il aurait dû être Lévi. Mais maintenant, il va devenir Kohen Gadol parce que toi, tu n'as pas voulu aller, tu n'as pas obéi tout de suite. Et la deuxième chose, c'est qu'Hachem lui dit, la sortie d'Égypte, tu vas sortir les Bnei Israël d'Égypte et tu vas les amener vers la terre que j'ai promis de donner aux descendants des Avot. Tu vas les amener jusque-là. Mais toi, tu n'entreras pas en Eretz Israël. C'est-à-dire que dès le début, Moshe sait qu'il n'entrera pas. Par la suite, il a espéré qu'Hachem lui avait pardonné, mais il n'en est rien. Hachem ne lui a pas pardonné, en tout cas pas au point de laisser entrer en Eretz Israël. Bon, il a donc résisté. D'une certaine manière, c'est vrai que Moshe ne pouvait pas parler. Hachem lui a dit, mais qui est-ce qui permet à l'homme de parler? C'est moi. Si moi je t'ordonne de parler, tu pourras parler. Et d'ailleurs, par la suite, il va parler. Il va même chanter. Donc Moshe a refusé de parler. Il a utilisé tous les arguments possibles et imaginables. Et entre autres, il a dit, après avoir dit que lui ne pouvait pas parler, mais il a dit, les Bnei Israël ne pourront pas m'écouter. Ils ne m'écouteront pas. Et après, il est allé parler aux Bnei Israël et que les Bnei Israël ne l'ont pas écouté. Mais c'est écrit que la raison pour laquelle ils ne l'ont pas écouté, parce que, en fait, ils avaient le souffle court, ou mais avodakasha, mais ils étaient complètement abrutis par le travail qui leur était imposé, et ils en étaient à chercher leur souffle. Donc, tu ne peux pas écouter dans ces conditions-là. Et du coup, il a dit, il y a le fameux Kal Vachomer de Moshe Rabbeinu, il a dit, si déjà les Bnei Israël, quand je suis allé leur parler, ils ne m'ont pas écouté, alors plus forte raison, Kal Vachomer, que Paro ne m'écoutera pas. Et effectivement, Paro ne l'a pas écouté. Et puis après, il ajoute, et puis en plus, je suis Aral Sfataim. C'est-à-dire, j'ai ce défaut des lèvres. Donc, c'est vrai, donc, il est dans un pays où la parole, en quelque sorte, a perdu un peu sa puissance. Son Kal Vachomer, il est bon. Peut-être pas complètement. L'idée, c'est que si les Bnei Israël sont dans un monde où effectivement on ne peut pas penser sortir de ce monde-là, alors c'est clair que Paro va pas les laisser sortir. Et quand il dit qu'il est Aral Sfataim, il a donc les lèvres ourlées, je ne sais pas comment je vais traduire ça. Le Sfatemet, il dit que si les Bnei Israël ne peuvent pas écouter, alors moi je ne suis pas prophète. Parce qu'un prophète qui doit parler, s'il n'a personne pour écouter ce qu'il parle, ne peut pas écouter, alors il n'est pas prophète. Mais les oreilles d'Ebné Israël et les oreilles de Pharaon sont bouchées. Donc c'est en vérité, c'est ça que Moshe Rabbeinu comprend. Mes lèvres, elles sont. S'il est Aral Sfataim, ça veut dire qu'il a une orla. Une orla, c'est toujours un en plus. C'est donc fait une peau ou quelque chose qui empêche. Quelque part, c'est comme s'il y avait une peau qui empêche de parler. Si on regarde halakhiquement parlant, Moshe Rabbeinu c'est un prophète qui refuse de parler, refuse de prophétiser en fait. La Torah, elle parle des faux prophètes. parle de d'un prophète qui parle au nom d'Hachem et qui en fait raconte ce qu'il veut dire lui-même. Mais un prophète qui, donc ça c'est les faux prophètes, mais la Gemara elle dit, ça inclut aussi, la Gemara dans Sanhedrin elle dit que ça inclut aussi un prophète qui en fait supprime sa propre prophétie. On peut dire de façon réflexive, c'est comme si le prophète, il ne veut pas écouter ce qu'il dit. Donc quand Moshe Rabbeinu nous refuse de parler, c'est aussi comme s'il refusait d'écouter. Et donc la colère d'Hachem contre un prophète qui refuse de prendre sa dimension de prophète, et le Ramban fait remarquer que Moshe Rabbeinu n'a même pas demandé à Hachem de le guérir de ce Haral Shvatayim. Il n'a pas demandé, alors Hachem ne l'a pas guéri. Donc objectivement, il avait un problème, mais il aurait dû demander à Hachem, tu m'envoies parler, alors guéris-moi de ce qui m'empêche de parler. Mais il n'a même pas demandé. Il a pas prié Hachem de le guérir. Alors, on dit que ce qu'il a à la lèvre, c'est la suite de ce qui lui est arrivé quand il était un tout petit enfant. Midrash raconte que Moshe a donc été adopté par la fille de Paro. Et donc il est devenu potentiellement l'héritier du trône. Quand il était enfant, il était, je ne sais pas, sur les genoux de Paro, etc., plusieurs fois il a voulu prendre la couronne de Paro. Bon, évidemment, les interprètes de tout ce qui se passait ont dit, ça, cet enfant, il en veut à ta couronne, etc. Alors, d'autres ont dit, mais non, pas du tout, il est intéressé par tout ce qui brille. Et donc, on lui a fait le fameux test, on a mis des charbons, enfin, des braises, qui étaient rougeoyantes, en fait, la couronne, et puis, on va regarder que les deux sont attirants et vers quoi il va aller. Et bon, alors c'est, il y a eu un S parce qu'évidemment il allait aller vers la couronne, mais il y a eu un S et sa main a été déviée sur les charbons et quand il s'est brûlé, il a mis sa main brûlante, il l'a mise sur sa bouche. C'est comment? Et donc c'est ça qui a fait de lui un Haral Shvatayim. Donc, d'une certaine façon, Moshe, qui refuse donc d'aller parler, en fait, avec le temps, il finit par parler, mais il parle que à lui-même, en fait. Il ne résiste plus, il va y aller. Mais finalement, comme je vous l'ai dit, il va y aller, mais il va aller avec son frère Aaron.
n'y a pas une expression explicite qui dit oui, je vais y aller.
Non, mais il y va.
Oui,
On nous
d'accord.
décrit qu'il est allé.
Parce que ça pose quand même beaucoup de questions. C'est Hachem nous demande. Le miracle nous dit que ça dure une semaine. On ne voit pas Moshé à la fin de la semaine dire oui, je vais y aller. Il y va, mais il ne dit pas. Il demande à Moshé. Il dit à Moshé de dire, mais ça sera ton père qui va y aller. Il demande à Aaron. Il demande à Aaron. On dirait que tout est joué.
Non, c'était évident que. Bon, on peut dire peut-être que c'était évident que, par exemple, il devait y avoir séparation des pouvoirs. On peut le dire comme ça. Il fallait que Aaron ait un autre rôle, ait aussi un rôle, que Moshe ne soit pas tout seul à tout faire, en quelque sorte. La vérité, c'est que dans cette histoire de Kohen Gadol, à l'inauguration du Mishkan, pendant les Milouim, l'inauguration du Mishkan, elle a duré 8 jours, enfin 7 jours. Et pendant ce temps-là, le Kohen Gadol, c'était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, lui, par exemple, quand il était Kohen Gadol, il n'avait pas les vêtements d'apparat d'Aaron. Il était en blanc, comme un Kohen standard, quoi, avec du lin. Lui, il n'avait pas besoin de la parole. Mais c'est presque diabolique, quoi. Il était Cohen Gadol, et puis à la fin de la semaine de l'inauguration, Hachem lui a dit, maintenant tu vas introniser ton frère. Va lui donner à lui la Kehuna Gdola. Non seulement il ne l'a pas eu, mais il a goûté à la Kehuna pendant 8 jours, et bien sûr, on l'a lui enlevé. Et alors donc, attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le même, mais. Hein?
Mais la chaîne ne demande pas à Rod quoi que ce soit.
Non, on ne lui demande pas, parce qu'il vraisemblablement, il a dû entendre, de manière ou d'une autre, on ne dit même pas qu'il est venu à côté de Moshe. Où il est, Aaron? Il est pas, Aaron, il n'est pas au même endroit que lui. Moshe, il est au Sinaï. Aaron, il est en Égypte.
On pas, c'est que sans qu'il y ait un questionnement de la chaîne à l'égard de Moshe, pourquoi les... alors qu'il pourrait dire que je t'oblige à le faire, et j'ai l'impression qu'il oblige à le faire à Aaron, sans qu'on n'est plus dans un processus de question vis-à-vis de Aaron. C'est ça, et en plus, face à cette question, peut-être que j'ai probablement mal lu, à l'issue d'une semaine, à Moshe convaincu, en disant, ben, je prends le risque, j'ai eu tort, enfin, tout ça. Et ça se passe.
Non, mais il part. Il part avec sa femme et enfant, et il y a le
Peut-être parce qu'il y
problème
a un
de.
ordre dans la chaîne, et pas parce qu'il est d'accord.
Ah non, mais il a compris qu'il fallait obéir. On ne discute pas avec Hachem en
D'accord.
réalité. C'est
Je pas.
le paradoxe, c'est qu'il a discuté. La question, elle n'est pas tellement pourquoi il obéit, mais c'est pourquoi il n'a pas obéi au départ. Mais la raison qui est dite. Pourquoi il veut pas y aller ultimement, c'est pour pas marcher sur les plates-bandes de son frère. Alors maintenant, si on lui dit c'est Aaron qui va parler, alors il peut y aller. Si la véritable raison de ne pas y aller, c'est que je ne veux pas marcher sur les plates-bandes, mais tu ne marcheras pas, c'est lui qui parlera. Et après, il dit, oui, mais moi je vais arriver, le planquer, quoi. Le Aaron, c'est lui qui a soutenu tout le monde durant tout le galout, et moi j'arrive. Hachem lui a garanti que Aaron se réjouira dans son cœur. Moi, dit Hachem, je peux témoigner. Je ne sais pas, il fera contre mauvaise fortune, bon cœur, ou je sais pas, bonne figure. D'accord, mais moi, je dis qu'au fond de lui-même, il va se réjouir de te voir arriver. Et donc, c'est comme ça qu'Aaron va intervenir, mais bon, ben, le problème, c'est tout le chemin du Sinaï, de chez Yitro jusqu'en Égypte, Moshé le fait tout seul, enfin seul avec sa famille. Et quand il arrive, on voit très bien là, le Midrash dit, alors Aaron dit, mais c'est qui t'a amené là? Il dit, c'est ma femme, mon enfant. Bon, Aaron lui dit, mais t'es tombé sur la tête. Nous, on se désole tous les jours que nos femmes soient là, etc., qu'elles souffrent aussi. Et toi, tu amènes une femme souffrir en Égypte. Et du coup, il l'a renvoyée chez son père. Elle est retournée, Tzipora. C'est pour ça qu'elle revient seulement avec Yitro après.
Dans les scènes avec le pharaon, c'est vrai qu'à un moment, on entend Aaron parler, mais pas de manière permanente.
Oui, c'est toujours lui qui parle.
C'est toujours lui qui parle sur les tiplettes.
C'est en fait ce qui se passe. Ils vont à deux. Moshe parle à Aaron. Parce que, si vous voulez, ce que le Midrashim ont l'air de dire, que concrètement, Paro, il ne pouvait pas entendre Moshe. Certains disent la bouche par laquelle la parole d'Hachem va venir au Bnei Israël, puisque la Torah, elle va être donnée de cette manière-là. Donc, cette bouche-là, elle parle à un niveau qui n'est pas audible pour un type comme Paro. Mais Aaron, pour lui, c'est audible. Donc, lui, il sert, comme Hachem lui a dit, Aaron sera ton prophète. Aaron sera ton porte, aujourd'hui, on dirait ton porte-parole. Il va dire ce que moi, je t'ai dit de dire. Toi, tu vas dire à Aaron et il va le dire.
C'est-à-dire que lorsqu'on dit des phrases, Moshe dit à Pharaon,
Non,
laisse
quand
partir
il
mon peuple.
dit, c'est toujours Aaron qui parle. C'est jamais Moshe qui le fait. C'est Moshe qui est censé.
Et
Il
dit à
parle,
Pharaon.
mais par l'intermédiaire d'un traducteur, d'un haut-parleur, ou je ne sais pas ce que tu veux. Dire, pas du tout la même chose, mais dans la Gemara, très souvent, on dit celui-là, il a parlé, celui-là, il a parlé, celui-là a parlé, mais en général, la plupart du temps, quand ils parlaient en public, ce n'était pas eux qui parlaient. Il y avait quelqu'un qui avait une voix forte et qui connaissait un peu un élève, une espèce de haut-parleur. Eux, ils leur disaient, tu dis ça, tu parles sur ce sujet-là, il se connaissait suffisamment, il savait, voilà comment lui, le rabbin, il dit comme ça. Dans Gvurat Hashem, le Maharal, il explique, il parle du défaut de parole de Moshe. Et le Maharal, il rapporte à un autre Midrash, enfin la Gemara dans Nida, il dit que quand un enfant naît, il est après avoir appris toute la Torah dans le ventre de sa mère, et il y a un ange qui vient et qui le frappe sur la bouche ici. Et il oublie tout, et lui il explique que il va oublier la Torah. Toi qui l'avais apprise, mais grâce au langage humain en quelque sorte, il va reconstruire par la suite toute sa Torah. C'est-à-dire qu'ensuite, il va falloir parler la Torah, la reconstruire. Ça veut dire que le cadeau du langage humain, si on peut parler comme ça ici, qui est d'après ce Midrash, qui est dans c'est la Gemara dans l'Ida, qui est au fond le dernier acte de la fabrication d'un enfant, le dernier acte de construction d'un enfant. Après, il continue de se développer, etc. Mais le dernier élément extraordinaire, c'est le qui n'est pas de lui-même ou qui n'est pas donné par les parents, etc. C'est un ange qui intervient. C'est le dernier moment, si vous voulez, de la naissance, dans la naissance de l'enfant. C'est quoi? Ben c'est en enlevant la possibilité de, en oubliant toute la Torah, ça ouvre, en quelque sorte, l'accès au langage qui va permettre de retrouver la Torah. C'est comme ça que le Maharal l'explique. Et du coup, il applique ça à, il applique ce modèle du Midrash à Moshe Rabbeinu. Et il dit que, en fait, Moshe Rabbeinu n'est pas vraiment, du coup, puisqu'il a encore Aram Sfataim, c'est comme si il n'était pas vraiment né, il n'a pas vraiment la condition humaine. C'est un peu particulier, c'est un humain, mais qui n'est pas complètement, comme si Moshe n'était pas vraiment complètement fini, quoi. L'ange, si on peut parler comme ça, hein, l'ange en question, il n'a pas touché Moshe. Et donc, Moshe est dépositaire de secrets qui viennent d'un autre monde, d'un monde où on lui a enseigné toute la Torah dans le ventre de sa mère. Et du coup, il n'a pas le langage. Puisqu'il a la Torah encore, il n'a pas le langage. Il ne peut pas parler. Quelque part, ce Moshe, il est donc, il appartient quasiment à un autre monde d'après ça. Jusqu'au moment où effectivement, j'ai l'impression qu'à partir du moment où Hachem va parler par la bouche de Moshe, ça va le guérir. Puisqu'il le guérit à Shirat Hayam, il chante. Ainsi Hachem Moshe. Donc dans le portrait de mon cher Arbenou, il y a, si vous voulez, il y a deux récits qui créent une espèce de tension. Un récit de grandeur, d'un souci énorme pour son frère. Une vision de toute la Torah, quoi. Il va faire de lui quelqu'un d'extraordinaire, d'unique parmi les humains, en fait. En fait, je veux juste une petite parenthèse. Je m'étais demandé. Bon, on dit que, bon, c'est écrit dans la Torah que depuis Moshe, etc., il n'y a jamais eu avant lui ni après lui, etc. Et la Gemara, elle dit que Ezra, si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe Rabbeinu, elle aurait été donnée par Ezra. Donc, ça veut dire qu'Ezra, il est un espèce d'équivalent de Moshe, quoi. Bon, alors, peut-être qu'il n'est pas prophète à ce niveau-là. C'est en tant que Navi, personne n'est à la hauteur de Moshe. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus grands que Moshe sur d'autres plans. Ce que dit la Torah, c'est qu'il n'y a jamais eu de prophète comme Moshe. Il n'en a jamais. Mais Ezra, hein, c'est quelque chose de. Bon, Ezra, c'est quand même. Quand on dit qu'il aurait pu donner la Torah, en fait, il leur a donné la Torah. Ezra, il est celui qui a donné la Torah aux gens qui sortaient de l'exil de Babel, les quelques dizaines de milliers de gens qui ont voulu revenir, qui ont été d'accord de revenir en Eretz Israël et d'aller construire Les Amygdales, c'est presque personne, quelques dizaines de milliers de gens. Ils avaient la permission, mais les gens ne sont pas du tout précipités pour revenir. Bavel est devenu un centre de Torah plus important que la Torah, que Eretz Israël, bien sûr. Et alors, lui, il a dû leur apprendre la Torah en araméen, parce qu'ils avaient oublié la Lachon HaKodesh. Ils ne savaient plus non plus écrire. Donc, la Gemara, elle dit, on leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on reprend l'écriture, l'hébreu de base, qui était très pointu comme ça, ou est-ce qu'on prend l'écriture que nous, on a, qui est une écriture assez ronde, quoi? D'accord? Et c'est celle-là qu'ils ont choisie. Quelque part, il leur a tout appris. Il leur a donné une Torah qu'il n'a pas reçue d'Hachem, comme Moshe Rabbeinu, etc. Mais il y a quelque chose de ça. Je veux dire, quand la Chazal dit il aurait pu donner la Torah s'il n'avait pas déjà été donné, mais dans ce qu'il y avait encore à donner, parce qu'elle avait déjà été mise dans le monde, la Torah, Ezra, il l'avait apprise avant de la donner. Je veux dire, il n'est pas monté au ciel 40 jours pour apprendre la Torah comme Moshe Rabbeinu, mais quand même, il y a quelque chose chez Ezra.
Il
Mais
ramène
bon.
le galout aussi, le peuple.
Oui, non, il fait la même chose que Moshe
Voilà.
Rabbeinu, si vous voulez, mais en plus petit, en plus. Et puis, bon, c'est des circonstances différentes.
Mais c'est avant l'an dernier, bien sûr.
Non, non. Quand on
C'est
revient,
avant.
quand ils reviennent,
C'est avant.
Mordechai, il est avant Darius, avant le Darius, le fils d'Esther, qui va permettre finalement, après Cyrus,
Après,
qu'ils reviennent,
donc
il est un peu après.
c'est des descendants de ceux qui étaient à Shushan, qui sont entre autres, voilà, qui étaient donc dans cette Babylonie, qui sont revenus lorsque
Oui.
c'était parlé par Darius. Lorsque c'était permis par Darius.
Oui, c'est ça. Donc, il y a un premier récit qui parle de cette grandeur de Moshe, première chose. Et il y a un autre récit qui parle de la colère d'Hachem, le refus de prophétiser, le refus de demander à être guéri. Oh, Rabbi Nachman de Breslav, il écrit à ce sujet-là, hein, sur le problème de la, le problème d'être muet. Moshe Rabbeinu qui ne peut pas parler, en fait. Bon, il s'appuie en fait sur, je ne vais pas entrer maintenant dans le détail, sur un passouk dans Yeheskel. C'est un peu compliqué, c'est une drachée un peu difficile. Mais il arrive à la conclusion qu'il faut bien voir que les organes, dit-il, qui servent au langage, qui donnent la puissance au langage, ils sont proches des organes. Donc, ils sont dans la même catégorie, si vous voulez, que les organes qui assurent la reproduction, en fait. De telle sorte que, d'une certaine manière, enfin, c'est ce qui ressort un peu de cette lecture de Yeheskel, c'est que l'énergie qu'il y a dans la procréation, en fait, elle vient de la puissance du langage. Il y a un passouk dans Yirmiya qui dit à Hachem, tu es proche de leur bouche, mais tu es loin de leurs reins. Ça veut dire que ça forme une seule et même catégorie. Le langage a un impact sur la procréation. Bon, c'est une explication un peu complexe là, de à partir de ce passage d'Hézkel. Bon, c'est tout un sujet, on ne peut pas parler maintenant. Il faut des conditions physiques, justement, pour pouvoir parler, évidemment. Donc, quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, finalement, c'est que il y a un passouk dans le Navi Yeshaya. Il dit que ceux qui espèrent Hachem, ceux-là, ils vont être capables de renouveler en quelque sorte leur énergie. C'est-à-dire, cette idée que les Bnei Israël en Égypte, pour retrouver de l'énergie, il faut qu'ils puissent espérer en Hachem, finalement. Pour pouvoir sortir d'Égypte quelque part, même si en fait il n'y a que un cinquième qui va sortir, mais ce cinquième-là, d'où il va pouvoir prendre, où il prend l'énergie pour sortir. On a bien dit quand même que les esclaves, ils n'ont pas d'énergie pour sortir. Parce qu'ils ne peuvent pas le penser. Alors, il faut faire tout un travail. Il y a toujours des gens que j'ai même pas laissé entrer, mais c'est toujours calme, mais je l'avais vu, mais comme il n'y a pas d'énergie, il faut trouver une source d'énergie pour pouvoir bouger, quoi. Alors, je me crois dit, le lachon de la Torah est extrêmement précieux. Pourquoi? Parce que le lachon de la Torah guérit le lachon, il guérit la langue, l'organe, langue. D'où est-ce qu'on le sait? Le Midrash dit, parce que dans Michelet, il y a un passouk. Il dit que le Etz HaChaim, l'arbre de la vie, guérit la langue. Bon, l'arbre de la vie, c'est la Torah. C'est la Torah qui est vraiment Etz HaChaim, qui est le. Et donc, ça vient que la langue de la Torah va guérir, donner ça, va permettre à la langue de jouer son rôle. Et le Midrash dit, tu sais que dans les l'artie de Lavaux, dans les temps futurs, La cloche Beaucoup va faire pousser un arbre exceptionnel, l'excellent arbre du Gan Eden. Mais quelle est son excellence à cet arbre? Parce que justement, cet arbre, il va guérir la langue. Toujours à partir de ce fameux verset d'Yéhézkel. Bon, c'est des jeux de mots sur la langue. Mais d'où est-ce qu'on sait que, effectivement, ça va guérir la langue? Parce que le passouk dit que les feuilles de cet arbre sont elles qui vont guérir la langue. Alors, ça veut dire que les fruits de l'arbre vont être mangés et les feuilles vont guérir la langue. On dit, Rabbi Yehoshua ben Lévi dit, ça s'appelle, on peut polir la langue, polir la langue avec les paroles de Torah. Et Rabbi Lévi dit, mais pourquoi on va chercher dans les psukim des Yéhézkel, etc., alors que c'est dit sur place? C'est marqué que Moshe Rabbeinu, avant qu'il reçoive la Torah, il dit de lui-même, je ne suis pas un homme de parole, Loïs Dvarim Anochi. Mais quand il reçoit la Torah, sa langue est guérie et commence à parler. La preuve, c'est que les premiers mots du Sefer Dvarim, le Sefer Dvarim, c'est un Sefer qui est différent des quatre autres. Bon, dans les quatre autres, c'est Hachem qui parle par l'entremise de Moshe, par la bouche de Moshe. Dans Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui parle de lui-même. Or, les premiers mots de ce livre de Dvarim, où c'est Moshe qui parle, c'est marqué explicitement Ela Dvarim, Asher Diber Moshe. Donc voilà, il a parlé de lui-même. Et donc, qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h dans le chapitre 47 d'Yéhézkel? C'est sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Rabbi Lévi, il lit que l'histoire de Moshe, comme histoire de quelqu'un qui acquiert le langage, et toutes les preuves qu'on amène justement de Michelet, d'Yéhézkel, que la Torah guérit la langue, ben, toutes ces preuves-là sont absolument non nécessaires. C'est l'archétype de la situation, dit Rabbi Lévi. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire en allant regarder de plus près exactement ce que c'est que le langage, on va mieux comprendre quel était le problème de Moshe. Yéhézkel, il amène son arbre là. Il dit que ça va servir de troupa. Donc, ça veut dire, en vérité, l'histoire de Troufa, ce mot de Troufa, c'est un impact. Ça veut dire, c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois dans le Tanakh. Donc, la Torah, qui est l'arbre de vie, son vrai langage, sa langue, etc., se frotte, la Torah se frotte sur la langue humaine, la polie en fait. Donc ce jeu qui se fait sur le mot lachon, la langue, qui existe aussi en français, l'ambiguïté, les deux sens du mot langue qui existent en français, qui existent en hébreu aussi, lachon, ça donne un langage sur lequel, en quelque sorte, la langue humaine, en fait, c'est. On glisse de la langue humaine au langage humain. Fait que le langage humain, grâce, quand la langue est bien polie, le langage humain devient très clair. Alors, c'est une image, bien sûr, mais de ce. La langue, semble-t-il, elle a besoin d'être travaillé pour pouvoir jouer son rôle. Donc, pour Rabbi Nachman, l'idée du Midrash, c'est que les mots, la langue de la Torah, donc, a ce pouvoir de libérer complètement, de permettre à la langue humaine de donner sa pleine mesure, en fait. Et du coup, ce qu'il avait dit, du coup, ça donne aussi toute la puissance sexuelle aussi, puisqu'il avait dit que les deux sont liés. Et tout ça dépend en vérité de la confiance, dans l'espoir qu'on a qu'Hachem va effectivement les sauver, en fait. Donc, ça va être ça le travail qui doit se faire chez Moshe pour qu'il puisse jouer son rôle. C'est quelque part, son rôle, ça va être de parler la Torah, mais pour parler la Torah, il faut avoir travaillé la langue, mais donc ça va se faire en même temps. Quelque part, la Torah qu'il va enseigner, qu'il va dire, qu'il va parler, ça va lui permettre de parler en quelque sorte. Ça veut dire au fur et à mesure. Donc, quelque part, il a besoin, sa langue doit, sa langue, l'organe, doit servir pour la langue de la Torah, mais c'est la langue de la Torah qui lui permet de servir à ça. C'est un cycle complet. Bien, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois sur ce sujet-là.